France Inter. Le 18-20, Corinne Audouin.
Dis maman, est-ce qu'on est riche ? Un jour peut-être votre enfant vous a posé la question et vous voilà bien embarrassé. C'est quoi être riche ? Comme l'écrit Louis Morin de l'Observatoire des inégalités dans son rapport sur les riches de France qui paraît aujourd'hui. Hormis Bernard Arnault, on est toujours le pauvre d'un autre. Alors justement ce soir, on ne va pas parler des super riches, mais des 4,5 millions de Français les plus aisés. Pour l'Observatoire des inégalités, on est riche à partir de deux fois le revenu médian. 3 673 euros par mois après impôt pour une personne seule, 5 500 euros pour un couple sans enfant, 7 700 euros pour un couple avec deux enfants. Ça fait quand même 7% des Français. Le Français riche à 57 ans, il vit en couple, possède son logement et vit dans un beau quartier. Voilà le portrait à gros traits, mais on va s'intéresser aux détails, à l'héritage, aux revenus, à la façon dont ils vivent, dont vous vivez, dont nous vivons, car finalement, ça fait pas mal de monde. Est-ce que c'est mal d'être riche ? Est-ce que ce qui compte, c'est la redistribution ? Pourquoi les revenus des plus riches progressent plus vite que ceux des autres ? J'attends vos questions et témoignages. C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on prend tout de suite un premier appel. C'est Roger qui nous appelle. Bonsoir Roger, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Oui, donc moi je voudrais dire que par rapport à ce que vous venez de dire, bon, je ne suis pas dans les plus aisés, donc moi c'est 4500 euros après impôt, je suis seul avec deux enfants, donc moi je suis plutôt dans une fourchette moyenne, mais je voudrais quand même apporter un témoignage sur le fait déjà qu'avant le Covid, bon, j'avais déjà un peu l'impression d'être un privilégié, parce que je suis dans l'ingénierie, voilà, et puis même si je pense que ce que je mérite mon salaire, mais c'est en voyant les autres qui sont plus en bas de l'échelle, je trouvais déjà qu'il y avait des grosses inégalités qui me mettaient moi un peu mal à l'aise. Et avec le Covid, il y a eu les gouvernements ont beaucoup soutenu l'industrie. Nous dans l'ingénierie, on a été beaucoup soutenus. J'ai eu beaucoup de jours à rester à la maison, payé 100%, si bien que même à la fin de l'année, il m'a resté un excédent de congé. Et par contre, là, j'ai vu tous les soignants, j'ai vu les livreurs, j'ai vu les gens, les petits métiers, je les ai vus travailler très dur. Et bon, là, la gêne est montée encore un petit peu. Voilà, c'était le témoignage que je voulais apporter.
Merci beaucoup, Roger. Vous nous appelez de Fontenay-sous-Bois. Pour vous répondre, je vous présente nos invités. Louis Morin, vous êtes directeur de l'Observatoire des inégalités. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous avez co-dirigé donc ce dernier rapport sur les riches en France qui paraît aujourd'hui. Et Pierre Madec, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Louis Morin, qu'est-ce qu'on peut répondre à Roger ? Effectivement, 4 500, peut-être qu'on va redonner un petit peu les fourchettes qu'on a données. S'il est seul à charge avec deux enfants, on ne peut pas considérer qu'il est riche. Mais lui se considère comme riche, c'est ça qui est intéressant.
Non, il est effectivement en dessous. Ça dit donc que la notion de richesse, c'est toujours subjective. Alors,
absolument.
Je pense qu'on a un témoignage relativement rare par rapport à certains qu'on des revenus plus aisés qui ont du mal à se considérer comme riches. Je crois qu'il y a une part évidente de subjectivité dans le fait de se considérer riche ou pas, mais ce monsieur a peut-être une fibre qui reconnaît les difficultés sociales d'une très grande partie de la population et qui se dit, notamment après la crise du Covid, comme il le dit très bien, oui, je sais ce qui se passe en bas de la distribution des revenus et pour les classes moyennes, il est un petit peu au-dessus du niveau des classes moyennes, mais voilà, il reconnaît sa position, ce qui est malheureusement pas le cas de nombreux Français des catégories aisées.
Pierre Madec ?
Alors, s'il faut répondre à la question de est-ce qu'on est riche, quand est-ce qu'on est riche, moi j'en sais rien. C'est-à-dire que l'Observatoire...
C'est toujours par rapport à quelqu'un.
L'Observatoire des inégalités a fait un travail et s'est vertué à fixer un seuil à deux fois le niveau de vie médian. Moi je sais pas si c'est le bon seuil. On pourrait le fixer à trois fois, on pourrait le fixer à une fois et demie. La question est pas tellement là. La question est de dire, aujourd'hui on est capable de catégoriser relativement bien la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a un taux de pauvreté qui fait consensus, une intensité de la pauvreté qui fait consensus, c'est-à-dire à quel point les pauvres sont pauvres. Tout ça, c'est assez bien documenté d'un point de vue statistique. Par contre, la richesse, quelle que soit la façon dont on la décrit, on la qualifie, est très peu documentée. On regarde souvent les 10% les plus riches, les 5%, les 1%, les 0,1%. Mais on n'est pas capable de dire, est-ce que ces gens-là sont plus nombreux qu'avant, par exemple? Est-ce qu'on arrive à les suivre dans le temps et à voir si ils sont de plus en plus déconnectés du fameux niveau de vie médian? Donc ce qu'apporte ce rapport, c'est plutôt, à mon avis, un apport méthodologique pour la statistique publique, essayer de l'interroger, essayer de dire, bah, tout comme on arrive à traiter aujourd'hui la pauvreté grâce à des indicateurs, c'est-à-dire que les politiques publiques aujourd'hui, elles ont comme objectif de réduire le taux de pauvreté, on pourrait essayer de quantifier de façon statistique assez propre la richesse. Quel que soit le seuil, une fois de plus, le seuil il peut être débattu, je pense, assez facilement.
Justement, sur ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'en fait, l'INSEE calcule le seuil de pauvreté qui est en France, vous me dites, si je dis une bêtise, de 1063 euros par mois ou 34 euros par jour. C'est 60% du salaire médian. Mais le seuil de richesse, donc c'est l'Observatoire d'inégalité qui l'a choisi, enfin qui l'a calculé. On peut en débattre. En tout cas, l'INSEE ne le montre pas. Alors qu'en Allemagne, ça fait, je crois, 20 ans qu'on affiche le seuil de richesse. On a la richesse honteuse en France un petit peu.
On a une difficulté avec le Maurice, la modestie de Pierre Mardec. Il ne dit pas que c'est pour la première fois en France qu'on va publier grâce à lui et ses calculs, qui partagent pas forcément notre seuil de richesse, mais il accepte de travailler et on le remercie pour nous. Mais c'est pour la première fois en France que dans un document, on va avoir l'évolution du nombre de personnes riches et du taux de richesse ou du taux de riche. On sait même pas comment l'appeler, parce que c'est un peu la première fois qu'on va publier dans un document en France. Alors la richesse honteuse, oui, on a quand même un problème par rapport à l'argent, la définition. Le monétaire, le fait de se dire riche. On avait un président de la République qui disait qu'il n'aimait pas les riches, ce qui n'a pas de sens. On n'aime pas à aimer ou ne pas aimer les pauvres et les riches. On a à débattre à partir d'outils, de faire de la pédagogie, d'essayer de définir des critères qui sont critiquables, on y reviendra sans doute, et puis ensuite d'avoir un débat un peu sérieux entre personnes sur ce sujet-là.
On va prendre Laurent au standard tout de suite. Laurent, vous nous appelez, je ne sais pas d'où, mais je vous écoute. Vous voulez nous expliquer un petit peu votre situation, vous?
Oui, allez, bonjour.
Bonjour.
Je raconte un peu ma petite histoire. En fait,
allez-y, on vous écoute.
Je gagnais pas beaucoup d'argent, donc j'ai été boursier à échelon maximal. J'ai fait des études, je suis ingénieur maintenant. Ma compagne est infirmière et aujourd'hui, on s'approche doucement de deux fois le revenu médian dont vous parliez. Moi, il y a deux choses qui me gênent là-dedans, en fait, dans ce deux fois revenu médian. C'est que, d'une part, moi, j'ai zéro patrimoine parce que mes parents n'ont pas réussi et n'ont pas pu, à l'époque, en construire un. Donc, j'ai pas d'héritage.
Vous n'aurez pas d'héritage.
Qui va tomber. Mais j'ai pas non plus de facilité pour acheter ma maison ou ce genre de choses, ce qui arrive souvent pour des amis, etc. Et la deuxième chose, c'est que mon métier, vu que j'ai fait des études, dans pas mal de cas, m'attirer vers les grandes villes qui sont plus chères.
Absolument.
Et qui sont plus... Et du coup, ma qualité de vie, même si j'ai ce revenu-là, elle est équivalente à quelqu'un avec un salaire une fois et demi ou presque deux fois à moindre dans la petite ville d'où je viens.
Merci beaucoup. Voilà. Oui, merci beaucoup Laurent pour votre témoignage. On comprend bien que c'est complexe la richesse. Ça rejoint plusieurs questions qu'on a eues également par mail. Frédéric, il me semble que la richesse est d'abord une question de patrimoine. Colette, à partir de combien de revenus ou capital on est considéré comme riche en France? C'est vrai que le patrimoine, alors c'est encore plus compliqué à calculer que les revenus. Là aussi, on est en manque de données publiques. Mais est-ce que on est riche seulement si on gagne bien sa vie, si on a un gros patrimoine ou les deux?
Oui, bien. Mais bien entendu. Alors pour Laurent, d'abord, on multiplie pas par deux quand on est deux, hein, on multiplie par 1,5 parce qu'on considère qu'il y a des économies d'échelle. Donc le seuil qui est à 3007 et à 5005 pour un couple.
Voilà. Donc ça, il n'est pas non plus pas, il fait pas partie des riches.
On multiplie pas par deux le seuil quand on est deux. Évidemment qu'il faut à la fois construire un outil et tout en le construisant, expliciter ses limites. Il est évident que quelqu'un qui gagne 3700 euros et qui a 1 million d'euros de patrimoine de côté et quelqu'un qui gagne 3700 euros et qui est très endetté ne sont pas dans la même situation. De même que Laurent a raison de dire que s'il doit travailler au centre de Paris, son mode de vie, ses conditions de vie, surtout son espace de logement, une question que connaît très bien Pierre Mardec, ne sera pas du tout le même que si s'il va habiter à Limoges ou au fin fond de la Vienne, par exemple.
Oui, Pierre Madec, c'est vrai que cette question du coût du logement, est-ce qu'il ne faudrait pas calculer finalement le revenu qui reste une fois qu'on a payé, qu'on s'est logé, pour décider si on est riche ou pas?
Alors, la question du reste à vivre, des conditions de vie au sens large, est une vraie question. Après, c'est une question qui se pose pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous gagnez 1000 euros, c'est pas pareil de gagner 1000 euros et d'habiter à Paris que de gagner 1000 euros et d'habiter dans une maison, avoir fini de la rembourser, etc., etc. Donc, ce problème de la conception de ce qu'est la pauvreté ou de ce qu'est la richesse et comment on intègre là-dedans, notamment les dépenses contraintes, est une question qui vaut quand on parle du seuil de richesse, mais ça vaut aussi quand on parle du seuil de pauvreté. Donc, une fois de plus, je trouve que l'apport, c'est d'essayer d'amener un pendant au seuil de pauvreté, en l'appelant seuil de richesse ou ce qu'on veut. Mais évidemment que cette question des conditions de vie, elle est centrale. C'est d'ailleurs pour ça que, pour ce qui est de la pauvreté, l'INSEE publie depuis maintenant un certain temps un indicateur qui est non pas la pauvreté qu'on appelle monétaire, mais la pauvreté en conditions de vie. Est-ce qu'on a accès à un certain nombre de biens élémentaires? Voilà, donc on pourrait très bien imaginer pour la richesse, essayer de regarder un indicateur de richesse en conditions de vie. Est-ce qu'on arrive à partir en vacances une, deux, trois fois par an? Est-ce qu'on arrive à mettre de l'argent de côté? Là, on sait que pendant la crise sanitaire, par exemple, on a beaucoup dit, il y a 150 milliards d'euros d'épargne accumulée par les ménages qui n'ont pas pu consommer, aller au restaurant, aller au cinéma. Faut être conscient du fait, et ça les études, notamment du Conseil d'analyse économique le montre très bien, quand on dit à 150 milliards d'euros d'épargne accumulée pendant la crise, il y a tout un tas de gens qui n'ont pas épargné un euro, parce qu'il n'y avait pas la cantine qui était ouverte, qu'il fallait nourrir les enfants, etc. etc. Et à côté de ça, il y a des ménages, qu'on peut appeler les ménages les plus riches, qui eux ont mis de côté énormément d'argent. Donc peut-être que l'un des critères de la richesse, ça pourrait être de regarder qui a réussi à faire des économies pendant les confinements successifs. Et en répondant à cette question, on pourrait avoir une idée de est-ce qu'on est riche ou pas.
Et ça m'amène, Pierre Madec, à cette question. Est-ce qu'on n'a pas un énorme manque d'enquête de profondeur, de fond, sur les riches et leurs pratiques et leur, voilà. Je crois que c'est vous qui disiez, peut-être Louis Morin, un travail systématique manque sur la misère. On pense au travail de Bourdieu, d'un sociologue comme Bourdieu, sur la misère du monde. On n'a pas le même travail du côté des conditions de vie des gens les plus aisés. La recherche publique n'est pas au point encore sur cette question-là.
Non, c'est ce qu'on regrette. Autour de l'équipe quand même de Thomas Piketty et des économistes, il y a quand même un travail de recherche au niveau international qui a été fait, qui est important, hein, qui fait progresser la connaissance quand même des revenus et pas retomber sur la France. Mais par contre, il faudrait qu'en France, dans le détail, comme le disait Pierre Madec tout à l'heure, on manque quand même beaucoup de travaux d'économistes et de sociologues pour documenter concrètement c'est quoi être riche, quoi.
Pierre Madec.
En fait, il y a un biais quand même globalement. On est très attiré, mais que ce soit les médias ou même la recherche, vers les très riches.
Les ultra riches, absolument. Ça fascine, ça fait rêver tout le monde, les yachts, les jets.
Ça fascine et on va expliquer au monde que le problème vient de là. Et qu'en taxant normalement, par exemple, ces gens-là, on va réussir à retrouver des recettes fiscales importantes, on va pouvoir redistribuer. En réalité, c'est pas en taxant même, normalement, même beaucoup, les 0,1% des plus riches qu'on va réussir à faire quelque chose. Par contre, en responsabilisant, en disant, en fixant un seuil et en disant en fait il y a quand même 7% de la population qui peut-être pourrait soit contribuer plus, soit contribuer mieux à l'impôt pour une meilleure redistribution. Le premier auditeur le disait, moi je me considère comme riche et à côté de ça il y a des gens que je considère comme étant plus essentiels que moi, je travestis un peu ses propos, mais qui ont pas mon niveau de vie. Ça s'appelle la redistribution, ça s'appelle le système socio-fiscal, et en essayant de quantifier qui sont les plus pauvres? Comment on peut flécher au mieux les prestations sociales vers les ménages les plus pauvres? Qui sont les plus riches? Comment on fait pour flécher au mieux le système fiscal vers les ménages les plus riches? En répondant à toutes ces questions-là, on peut peut-être parvenir à un système socio-fiscal plus juste.
On va aller au standard tout de suite à 19h35 pour retrouver Elias. Bonsoir Elias, vous vouliez nous parler de la bourse, je crois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on parle uniquement des salariés, c'est-à-dire des gens qui travaillent, en gros, même si souvent les écarts peuvent être excessifs, surtout quand on pense à certains dirigeants d'entreprises qui ont des retraits de chapeau, enfin des stocks options.
Des parachutes dorés, etc.
C'est des sommes qui donnent le tournis, là, quand on voit ça. Là, bon. Et puis, bon, en gros, la question, c'est de savoir d'où vient cette richesse quand on pense à ce que rapporte le capital, c'est-à-dire les gens qui ont assez d'argent pour investir. Et quand on voit là les chiffres de la bourse qui explosent, là on se dit il y a quand même une source de richesse, qui vont taxer d'ailleurs en Angleterre, puisque là, ils ont décidé, Boris Johnson, de faire 25% là sur les revenus, disons, des grandes entreprises. C'est là que ça, le bât blesse, à mon avis, c'est-à-dire que le capital, ceux qui peuvent investir dans des grandes entreprises, gagnent beaucoup plus d'argent sans travailler, entre guillemets, c'est-à-dire justement juste en risquant leur capital, que des gens qui vont travailler, disons, et qui vont monnayer leurs compétences à tel ou tel niveau. Voilà. Et donc, quand on restreint le débat uniquement aux gens qui sont salariés, on oublie quand même une partie de la population qui, encore, bon, encore beaucoup plus restreinte, donc investit et gagne beaucoup d'argent, d'après les chiffres de la bourse, encore une fois, à investir leur capital. Et c'est là que vient la plus grande
inégalité.
Voilà, ça me paraît comme ça. Voilà.
Merci Elias pour votre témoignage. Je vais faire réagir nos invités. Peut-être qu'effectivement ça concerne pas énormément de gens, mais ça fait partie de ces choses qui choquent Louis Morin.
Non, mais bien entendu, il y a plusieurs choses. Dans ce rapport, il y a tout un volet hein, sur les revenus du patrimoine. Dans les revenus des Français, on comprend les revenus du patrimoine, et dans ce rapport, il y a tout un volet sur le patrimoine.
Absolument,
et effectivement, cet enrichissement, parfois totalement indécent,
de certains. C'est surtout que l'argent va toujours à l'argent.
Alors, on a calculé, par exemple, que Bernard Arnault, ce monsieur, pouvait, avec sa fortune, c'est un calcul complètement virtuel, avait une fortune équivalente à l'ensemble des logements de la ville de Marseille, ce qui est ahurissant. Il pourrait s'acheter tous les logements. Ce qui n'a pas de sens économique, mais qui est juste une représentation pour signaler un peu mesurer l'ampleur de sa richesse. Mais on doit pouvoir à la fois conjuguer un travail sur ces très grandes fortunes et ce type de revenus, et puis un travail plus large sur les revenus. Derrière la question qui était posée, et dans l'intervention de Laurent, il y avait aussi ça, c'est plus profondément, c'est est-ce qu'on mérite ou pas les revenus qu'on a? Ça, c'est une très bonne question à laquelle nous, on n'apporte pas de réponse. On ne dit pas que cet argent est immérité. Loin de là, il y a des gens qui gagnent des sommes importantes et qui ont des bonnes raisons de les gagner. Par contre, on a aussi le sentiment que parfois, c'est pas le cas. Et donc, c'est là-dessus. Après, on peut débattre d'un seuil, mais après, il y a une autre chose, il y a les inégalités et la question de la justice de ces inégalités qui est un autre élément de réponse.
Est-ce qu'il y a un problème, tout de même? Ça m'amène cette question à la question du poids de l'impôt. Le travail de l'impôt, c'est de rééquilibrer les choses. Est-ce que le capital n'est pas assez taxé par rapport au travail, Pierre Madec? Est-ce que on voit bien que dans votre étude, d'ailleurs, c'est dit que le dernier quinquennat, le quinquennat d'Emmanuel Macron, a été plutôt favorable à certains et plutôt aux très riches, la suppression de l'impôt sur la fortune notamment, totalement indolore évidemment pour les plus pauvres. Voilà, il y a quelque chose, il y a un effet. La politique peut faire quelque chose pour changer ces inégalités.
Votre auditeur, ce qu'il pointait, c'est l'hétérogénéité au-dessus de ce seuil, justement. Au-dessus de ces 3700 euros. À 3700 euros, en effet, la grosse majorité des gens, c'est des revenus du travail, des revenus salariés ou des grosses retraites. On voit bien que ce qu'on considère comme étant les vrais riches, les très riches, eux, ils ont une composition de leurs revenus qui est très différente. Pas uniquement la bourse, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous avez acheté un appartement à Paris au début des années 2000, sa valeur a été multipliée par 3,5 en l'espace de 20 ans. Vous n'avez pas fait grand-chose. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas... votre patrimoine a été multiplié par 3,5 sans que vous y soyez pour grand-chose. Sur la question de l'impôt et de la justice fiscale, c'est à mon avis, une fois de plus, le principal intérêt quand on essaye de quantifier les choses. Si on avait une quantification... Là, on est capable aujourd'hui, une fois de plus, je reprends toujours l'exemple des pauvres, parce que c'est une question qui est bien mieux documentée, mais on est capable de dire quel est l'impact du système socio-fiscal sur la réduction des inégalités, de la pauvreté. On est capable de dire, bah, avant les prestations sociales, il y a tant de pauvres, après, il y a tant de pauvres. On n'est pas capable de dire... Avant impôt, il y a tant de riches. Après impôt, il y a tant de riches. Ils sont riches comme ça avant, ils sont riches comme ça après. Or, c'est essentiel. Sur la fiscalité du capital, en effet, elle a été fortement allégée. François Hollande est arrivé... On peut lui reprocher plein de choses, évidemment, mais quand il est arrivé...
Il disait, mon ennemi, c'est la finance.
Alors, son ennemi, c'était la finance. Alors bon, sur certaines choses... Bref, je vais pas m'égarer. Passons, voilà comment on dit. Mais le fait est que l'une de ces mesures phares, c'est quand même de dire on va taxer de la même façon les revenus du capital et les revenus du travail. C'est-à-dire que quelle que soit la composition de votre revenu, vous allez être taxé à peu près de la même façon à l'impôt sur le revenu, à la CSG, etc. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui, est arrivé en disant bah non, on va taxer moins les revenus du capital que les revenus du travail.
Et on voit
du
très
travail.
Concrètement les conséquences de ça, de ces taxations de 2012 et du dernier quinquennat 2017-2020.
Ce qu'on voit, nous, on l'a montré à l'OFCE, on voit déjà que sur cette enveloppe de 5 milliards de baisse d'impôts, elle est allée directement dans les poches, si je puis dire, des 1, 2, 3% de ménages les plus aisés. Ça, c'est très très bien documenté. Et en effet de second tour, si je puis dire, ces ménages se sont fortement enrichis parce qu'ils ont profité de ces baisses d'impôts pour dire on va libérer plein de dividendes, plein de revenus financiers qu'on avait gardés un peu sous le coude au moment de l'entrée au pouvoir de François Hollande. Et donc on a une explosion du niveau de vie des ménages les plus riches, à la fois parce qu'on a baissé leurs impôts et en même temps, on a baissé leurs impôts, donc ils ont augmenté leurs revenus. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma démonstration, mais et donc on a un impact direct, là, pour le coup, d'une mesure fiscale sur pas tellement le nombre de riches, parce que c'est des gens qui étaient déjà riches avant et qui sont encore riches après. Donc ça, sur les courbes, ça ne se voit pas. Par contre, sur l'intensité de la richesse, sur le fait que les riches sont de plus en plus riches, là, on a un impact direct d'une réforme qu'on n'est pas capable d'évaluer proprement, j'allais dire, juste parce que on n'a pas de seuil et qu'on n'arrive pas à quantifier la richesse. Donc de ce point de vue-là, l'apport de ce rapport, et si ça débouche sur essayer de façon un peu collective se mettre d'accord sur un seuil de richesse, ça permettra aussi d'avoir ce type d'analyse sur l'impact des réformes socio-fiscales.
De pouvoir suivre en fait l'effet des politiques publiques, oui. Louis Morin.
Et puis ce qui choque aussi, je pense, à un grand nombre de Français, c'est le double discours, c'est-à-dire à la fois la réduction de la fiscalité des revenus du patrimoine qui permet une accumulation de plus en plus importante et une croissance des inégalités, et à côté un discours sur l'égalité des chances. Et là, il y a un choc assez profond d'un double discours que de nombreux Français qui n'ont même pas de quoi épargner et qui leur disent on d'un côté on est pour l'égalité des chances et de l'autre côté on accroît finalement l'inégalité des chances en pratique. Et ça heurte. Ça, je pense que c'est quelque chose qui choque l'opinion.
On va aller au Standard où nous attend Joseph. Bonsoir Joseph.
Bonsoir.
Alors vous nous dites, je fais partie de ces riches et j'en suis très heureux. Allez-y.
C'est ça. Voilà, c'était
vous assumez, un riche qui assume, c'est bien.
Pardon. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vis très bien. J'ai des revenus qui, voilà, je viens de découvrir que j'étais parmi les très riches.
Vous gagnez combien, juste si c'est pas indécent.
Je sais pas exactement. Ça doit être de l'ordre de 4005. Mais je suis en couple et mon mari gagne aussi assez bien sa vie. Donc c'est un peu plus que ça. Je pourrais pas vous le chiffrer exactement. Mais voilà.
Vous êtes loin de Bernard Arnault quand même. Tout va bien.
Oui, bien sûr. Voilà, ça reste des revenus classiques. On est salariés tous les deux. Enfin, on est fonctionnaires tous les deux. Et voilà. Donc en fait, c'est un petit coup de gueule que j'aimerais envoyer au gouvernement. Moi, je paye déjà beaucoup d'impôts. On en paye énormément, forcément. Mais on peut encore en payer 1000, 2000, 3000 de plus s'il faut. Et je demande au gouvernement d'augmenter enfin les impôts pour les gens qui peuvent se le permettre. Parce que ça permettra d'avoir des services publics qui fonctionnent, d'avoir des hôpitaux qui sont ouverts, d'avoir des écoles qui fonctionnent, de pouvoir donner des prestations sociales aux gens qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir des bons revenus. Et voilà, donc je suis un de ces riches qui vote à gauche et qui n'est pas tout à fait d'accord avec la politique fiscale du gouvernement.
Et Joseph, vous, par exemple, vous ne comprenez pas pourquoi on vous fait cadeau, je ne sais pas, de la taxe d'habitation, de la redevance?
Absolument. Vous pouvez les payer. La taxe d'habitation, ouais. C'est normal de la payer. Ça permet d'entretenir ma ville, de faire en sorte qu'elle soit enfin voilà.
Vous ne demandez pas des baisses d'impôts, quoi.
Surtout pas. Ouais. Il me reste de l'argent à la fin du mois, donc autant que ça serve à ceux qui sont vraiment dans la galère, parce qu'il y a de la misère en France, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas.
Merci Joseph pour cet appel, je pense assez rare, qui fait réagir nos invités, Louis Morin.
Alors, on peut peut-être être optimiste et personnellement, je pense qu'il y a un très grand contresens sur la relation des Français à l'impôt, fondé sur des sondages de coin de rue, où si vous demandez à l'immense majorité de la population est-ce que vous voulez payer plus d'impôts, ils ne seront pas dans ce cas-là, ils vont dire « non, je ne veux pas payer plus d'impôts ». Mais dès qu'on va un petit peu plus loin et qu'on se dit « on a besoin d'argent pour financer des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles », là déjà le ton change un petit peu. Et je crois qu'il y a une erreur très grave qui a été faite par le président Macron au moment de la crise Covid, c'est qu'on avait là l'opportunité justement de justifier un effort comme il vient d'être revendiqué face à une crise majeure, de dire, bah voilà, il faut qu'on se retrousse les manches, tous ensemble, pas simplement les 1% les plus riches, mais tous ensemble, comme le veut l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, en fonction de notre capacité contributive, et contrairement à ce que pense l'immense majorité des politiques à droite comme à gauche, je suis pas du tout persuadé que ça aurait été aussi impopulaire qu'on le dit. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose à retourner, à mon avis, à discuter. Et je pense qu'une grande partie des Français, et pas simplement l'auditeur qu'on vient d'entendre, sont prêts à faire un effort. Pour peu que, avec deux conditions. La première, c'est qui? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y ait du sens. On a vu avec les gilets jaunes, on augmente une taxe, on ne sait pas pourquoi, c'est presque la révolution. La deuxième des conditions, c'est que c'est y ait de l'équité, c'est-à-dire que ça soit justement réparti et que les plus aisés accepteraient de payer davantage, bien entendu, mais à condition que ceux du dessous mettent aussi un petit peu la main à la poche. Alors, on pourra toujours discuter de combien et à quel niveau on doit commencer pour cet effort, mais je pense que les Français sont dans leur immense majorité extrêmement solidaires et ont le sens de l'effort. Alors on peut me juger naïf, trop optimiste, etc. Mais ce que je demande, c'est que ça soit au moins mis dans le débat public.
Oui, qu'on ne parle pas du principe que tout le monde veut payer moins d'impôts. Tous,
à droite, mais aussi par une grande partie de la gauche, qui dit que 99% des gens, il faut les préserver de l'effort. Ce sens de l'effort, il existe. Il faut effectivement savoir pourquoi on le fait.
Pierre Madec.
Non, alors pour sans faire de démagogie, je pense que déjà un indicateur pour savoir si on est riche ou pas, en effet, c'est de demander combien on gagne. Et si la personne répond « je ne sais pas
», c'est qu'elle est riche.
Je pense que potentiellement, il y a une chance qu'elle soit au-dessus du seuil de richesse de Louis Morin. Mais après ce petit mot, je pense qu'en effet, il y a un vrai débat à avoir sur l'impôt et sur le pourquoi de l'impôt. C'est-à-dire que si, typiquement, vous supprimez la taxe d'habitation, c'est une mesure qui a coûté extrêmement cher, 16-17 milliards d'euros, c'était une taxe qui est injuste, mais ne revenons pas là-dessus. Si en face, ça se traduit par moins d'investissement des collectivités locales, vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah bah oui, bah on m'a baissé les impôts, c'est super, mais en face, j'ai moins de services publics. » Et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis un certain temps maintenant, où il y a une volonté politique de baisser massivement les impôts. D'ailleurs, les gens ont fait plus facilement campagne en disant « On va baisser les impôts que on va les augmenter », bizarrement, mais... Du coup, il y a eu des baisses massives d'impôts. On a baissé l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt progressif en France. C'est l'impôt sur le revenu qui, en gros, pèse deux fois moins que la CSG. Donc la CSG, c'est
qui
un impôt.
Qui est totalement injuste.
Voilà, ouais. C'est un impôt proportionnel. Tout le monde paye à peu près la même chose de CSG en pourcentage de son revenu. Et puis on a l'impôt sur le revenu qui est progressif. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une coupe de 5 milliards sur l'impôt sur le revenu, justement suite notamment à la crise des gilets jaunes, pour envoyer le message qu'on baisse les impôts. Mais en baissant les impôts, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on casse la redistribution, parce qu'on casse le caractère progressif de l'impôt. Or, plus que le niveau d'impôt, je pense que ce qui est extrêmement important, et ça permet de faire le lien avec tous les sujets sur les ultra-riches, c'est d'avoir l'impression que on paye, mais celui qui est plus riche que soi, en fait, il paye soit la même chose, soit un peu moins. Mmh. Et ça, c'est pas normal. Et c'est normal qu'on trouve pas ça normal. Donc, je pense qu'il faut rétablir une vraie progressivité dans l'impôt. Il faut remettre l'impôt sur le revenu. Certains parlent de fusion avec la CSG. On va pas rentrer dans la technique, mais je pense qu'il faut remettre l'impôt sur le revenu au cœur du système d'impôt. Arrêter de dire qu'il y a la moitié des Français qui payent pas d'impôt. C'est pas vrai. Les Français, ils payent la CSG, ils payent la TVA comme tout le monde. Mais il faut ramener cette progressivité. Et comment on fait pour ramener cette progressivité? Ben, en ayant conscience, une fois de plus, qu'il y a des gens qui sont pauvres, et puis il y a des gens qui sont riches, et puis il y a des gens qui sont très riches, et il y a des gens qui sont ultra riches, mais avoir une image assez précise de cette distribution de revenus et de niveau de vie.
Pour compléter ce que vous disiez, Pierre Madec, on a un message de Christine qui nous dit « Je suis retraitée agricole, montant mensuel 570 euros, là-dessus on me prend 20 euros de CSG, je n'ai aucune autre source de revenus, vous avez dit partage des richesses ». Ça rejoint ce que vous disiez sur l'injustice de certains impôts. Je voudrais également vous lire ce message, alors je n'ai pas le nom de la personne qui nous écrit. « Je gagne bien ma vie, 3000 euros net à 55 ans », alors elle aussi, a priori, n'est pas dans ce seuil de richesse, mais elle estime bien gagner sa vie. « Mais ayant commencé à travailler tard, ma future retraite sera de 875 euros. Suis-je riche ?» Ça, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas riche de la même manière tout au long de sa vie. Du moment où on commence à travailler, oui, on est jeune adulte, et jusqu'à la retraite, ça n'est pas...
Compte, voilà. Il faudrait prendre en compte l'ensemble du cycle de vie. Si on voulait faire toutes les critiques d'un seuil de richesse, avoir 3700 euros à 20 ans et à 55 ans n'est pas exactement exactement identiques en termes de perspective. Et puis, pour ceux et celles, surtout, qui ont eu des carrières plus ou moins heurtées, plus ou moins complètes, c'est vrai que le passage à la retraite fait souvent une baisse de niveau de vie, d'autant plus pour ceux qui ne sont pas propriétaires et qui n'ont pas fini de rembourser leur logement. Mais ça, ça compte aussi.
Pierre Madec, effectivement, sur la volatilité finalement de la richesse,
il y a la question de la volatilité, il y a la question aussi, parce qu'on va rentrer dans une phase, on ne sait pas, mais peut-être, de débat sur une possible réforme des retraites. Il faut peut-être rappeler un document très important qui a été sorti par l'INSEE il y a quelques temps maintenant, qui montre que, certes, les impôts réduisent les inégalités, les prestations sociales réduisent les inégalités. Ce qui réduit beaucoup les inégalités, c'est ce qu'on appelle la dépense publique ou les prestations non monétaires. Donc vous allez retrouver l'assurance chômage, les remboursements à l'hôpital, évidemment les pensions de retraite ou le système de retraite, enfin tout le système de protection sociale qui sont en gros ni des prestations ni des impôts. Et il faut faire attention, et ça réduit énormément les inégalités. Et là, les retraites par exemple, il y a très peu, enfin il y en a, mais le taux de pauvreté des retraités est relativement faible.
Ça protège, c'est un vrai bouclier.
C'est un bouclier pour les plus modestes, évidemment pour les plus aisés, on renonce un peu à une partie de son niveau de vie. Mais rappeler cet attachement au système de protection sociale français, c'est à mon avis important.
Est-ce qu'on peut parler peut-être de certains revenus? C'est une question là par mail, pardon, d'un auditeur qui nous dit: j'ai un nouveau voisin qui gagne 400 000 euros par an, il est manager dans une entreprise, il n'y a à mon sens aucun travail qui justifie de gagner de telles sommes. Alors c'est intéressant, dans votre rapport, Louis Morin, vous faites un petit peu un top 10 ou 20 des métiers qui rapportent le plus. Effectivement, les chefs d'entreprise sont tout en haut, et les cadres, les hauts cadres, que ce soit dans le privé ou dans le public.
Oui, et dans le secteur de la santé aussi, où il y a des revenus très faibles, il y a aussi des revenus très très élevés.
Oui, de certains professeurs,
dans
médecins, etc.
Dans la banque, dans l'assurance, etc. Il y a la question qui est posée, c'est jusqu'où on peut aller dans la justification d'un mérite, c'est-à-dire que à quel moment on doit s'arrêter. Elle est extrêmement difficile à résoudre. Si je me mettais à la place de la personne qui gagne 400 000 euros, il aurait peut-être l'impression qu'il a fait des études qu'il fallait, qu'il a bien travaillé,
qui paye beaucoup d'impôts.
Il y a des chefs d'entreprise qui s'investissent et qui payent énormément d'impôts. Donc voilà, faudrait pouvoir faire la part des choses, mais à l'évidence, il y a quand même des formes de revenus qui dépassent l'entendement. Et d'une certaine manière, un gaspillage d'argent, quand on voit les projets pharaoniques de cette population aisée et de ces dépenses qui n'ont qu'une utilité sociale, à l'évidence, elle serait bien mieux utilisée si elle était un peu socialisée et qu'elle revenait dans le circuit économique. Hein. Au passage, quand on dépense un RSA, quand on prélève 500 euros de revenus pour le reverser en RSA, il revient dans le service. C'est pas un fonds perdu. Un RSA, il revient directement dans le commerce, à la différence de baisse d'impôts qui finalement arrive très souvent sur des comptes épargne en France ou ailleurs.
Oui, c'est ça. Quand on donne un peu plus d'argent aux plus pauvres, ils le consomment.
On nourrit la machine économique, ce qui n'est pas le cas des baisses d'impôts. Tout à l'heure, Pierre Madec signalait le montant astronomique de la baisse de la taxe d'habitation, 17 milliards d'euros. Je rappelle quand même pour les auditeurs que le montant total du budget de la police nationale, c'est 10 milliards d'euros. Vous voyez l'écart. Toute une partie de cette baisse va alimenter l'épargne des catégories aisées. Ça ne sert absolument à rien. Et comme le disait Pierre Madec, on va avoir des pertes de recettes. Les femmes qui vont pas pouvoir aller mettre leur enfant à la crèche parce qu'on n'aura pas les moyens de construire des crèches, ça va se payer concrètement.
Ouais, les cadeaux, ça se paye.
Ça veut pas dire qu'on peut dépenser n'importe comment l'argent public. L'argent public, c'est notre argent, l'argent collectif. Il faut faire attention, il faut qu'il y ait des vérifications, il faut que ça serve l'intérêt général, c'est certain, mais que cet argent public collectif, il sert la collectivité. Il a des besoins, il répond à des besoins parfois très concrets, essentiels pour la population.
On va aller au standard de France Inter pour retrouver Juliette. Bonsoir Juliette, vous nous appelez de Pantin, on vous écoute, posez votre question.
Bonsoir. Oui, moi ce qui m'interpelle dans les différents échanges, c'est qu'on parle d'un salaire médian entre 4 000, on va dire, on considère quelqu'un de riche entre guillemets, hein, ça c'est toujours, et quelqu'un qui va gagner 2 003 ou 2 004 net, qui est quand même pas dérisoire à aujourd'hui, mais n'a pas du tout les mêmes moyens, notamment quand on voit les prix des logements, alors que ce soit en Ile-de-France bien sûr, mais aujourd'hui ça devient un problème national. Comment fait-on? Si vous voulez, pour moi, je trouve que le delta de ce qu'on peut appeler moyen est beaucoup trop important. Entre un 2 000 euros ou 2 003 et 4 000 et plus, le poste du logement et devient de plus en plus important. Et en fait, je rejoins l'auditeur précédent sur les taxes d'habitation. Sur un salaire de 2003, vous allez quand même payer une taxe d'habitation, alors qu'on peut pas dire qu'on soit riche à 2300 euros net et en plus en Ile-de-France. Et ça, c'est un sujet, je trouve que, enfin, qui est vraiment incroyable à partir du moment où on sait pertinemment que le logement, et je n'intègre pas l'héritage, moi, parce que l'héritage, au bout de 4 générations, il peut être perdu. Donc, voilà. Alors, je sais pas comment on pourrait arriver à gérer ce salaire médian et de la redistribution, à mon sens. Je sais pas comment on peut l'expliquer et le gérer.
Juliette, oui, vous vous interrogez en fait sur des charges qui sont trop importantes pour des salaires finalement qui sont du simple au double, si j'ai à peu près compris votre question. Pierre Madec.
La question des inégalités territoriales, elle se pose pour les riches, elle se pose aussi pour les pauvres, je le mentionnais tout à l'heure. Vivre avec le seuil de pauvreté à Paris ou vivre avec le seuil de pauvreté en province en étant propriétaire de son logement, c'est pas tout à fait la même chose. Et en effet, à Paris, vous avez 3700 euros, vous vivez en Ile-de-France, vous êtes une personne seule, il faut quand même bien vous loger et le logement va représenter un poids beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc il y a un débat en effet à avoir sur les inégalités territoriale et sur la question des dépenses contraintes et comment on essaye d'intégrer ça à la fois dans la pauvreté et dans la richesse. Il y a beaucoup de pour le coup, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, notamment au Conseil national de la lutte contre l'exclusion, d'essayer de raisonner non pas en taux de pauvreté, mais par exemple en reste à vivre, en essayant de regarder à quel panier de biens on arrive à s'acheter avec tel revenu à tel endroit.
Faut inventer des indicateurs en fait. Hein. Je crois nos indicateurs sont pas les bons.
Non, mais c'est tout l'intérêt du rapport de l'Observatoire des inégalités, c'est d'essayer de mettre dans le débat de nouveaux indicateurs pour essayer de piloter la politique publique.
Et je crois que derrière la question de Juliette, il y a aussi autre chose. Une question sur la situation des classes moyennes. Alors nous, on fait tous les 2 ans un rapport sur la pauvreté et sur la richesse en France. Peut-être qu'un jour, on devrait faire un rapport entier sur la situation des classes moyennes, sur les nuances. Elle appelle à la nuance, voyez, entre le seuil et puis entre nos différents seuils.
Oui, c'est pas si simple.
Si on a un niveau de vie médian à 1800 euros, quelqu'un qui va gagner 1500 et quelqu'un qui va gagner 2005, ça va pas du tout être la même chose. Et là, il y a de la nuance à faire. Et puis, elle exprime, au fond, une préoccupation de ces couches moyennes qui sont très éloignées de ces 4000 euros, qui, il faut le dire quand même, ont des niveaux de vie qui ont plutôt tendance à stagner depuis des années, à part l'année 2019, et qui ne sont plus dans la situation qu'elles avaient auparavant, les années précédentes, de progression assez nette de leurs revenus, mais qui s'interrogent aussi sur leur devenir, par exemple.
On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais juste citer Gilles de Nouvelle-Calédonie. Tout dépend d'où vient notre argent. Je trouve qu'on est attaqué, donné en pâture. J'en ai marre d'avoir honte d'avoir gagné de l'argent sur la fin de ma vie. Voilà, c'est dit. Gilles, on vous a donné la parole. Je remercie nos invités. Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, rapport sur les riches en France qui paraît aujourd'hui. C'est absolument passionnant. Et Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Merci à tous les deux. Merci à tous.